Bonjour, je me présente, Noah Cartier. Je vais faire une entrevue à propos du crash boursier de 1929 dans le cadre de mon cours de projet d'intégration en sciences humaines. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer un professeur d'économie, Yves Gingras. Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien, Noah.
Est-ce que je pourrais vous demander de vous décrire un peu rapidement?
Oui, je suis un professeur d'économie qui a parcouru ça de plusieurs voies parce qu'à l'origine, c'était plutôt un juriste. Mais finalement, j'ai fait mon bac en économie, puis après, j'ai été faire ma maîtrise à la London School of Economics à Londres, qui est une des deux, trois facultés d'économie les plus
Oh
prestigieuses au
ouais, quand même
monde.
assez reconnu.
Oui, OK. Plusieurs prix Nobel, plusieurs chefs d'État, okay, dont des Canadiens et des Québécois, ont passé par là. Fait que, ce qui me rend peut-être plus pertinent pour ton interview à toi, c'était pour la Banque du Canada. Et c'est les équipes qui analysaient l'impact justement des cycles économiques, puis voir si ça pouvait dégénérer en crise économique. Là, aussi. Fait que, mais non, mon nom n'apparaissait pas sur les études comme telles, mais parce qu'officiellement, j'étais le rédacteur des versions françaises des textes.
Ok, je comprends.
Mais je participais à la rédaction, donc j'étais faisais partie des équipes, disons.
Excellent.
Ouais.
Comme on a dit aujourd'hui, on va parler du crash boursier de 1929. Et pour ceux qui ne le savent pas, le crash boursier de 1929, en octobre 1929, ça a causé l'effondrement de la bourse là, à New York. Ça n'a pas pris trop de temps que la panique.
Quelques jours.
En quelques jours,
Oui.
que la panique s'est instaurée dans la ville.
La bourse a commencé à tomber jeudi et déjà le mardi suivant, le jeudi c'était le 24, si ma mémoire est bonne. Puis le mardi suivant, déjà, c'était la panique, les banques faisaient faillite, on a
Ouais.
vu ça des répercussions.
Quand même un événement assez important là, dans le domaine de l'économie. Et puis c'est ça a causé la perte de plusieurs investisseurs, puis ça a aussi fait pas mal descendre la confiance des gens envers la bourse. Aujourd'hui, j'ai préparé quelques petites questions pour notre interviewé. On va pouvoir enchaîner avec ça. Yves, pour la première question, quand on parle du crash, là, ben là, on vient un peu de le dire, mais si vous pouvez nous résumer ça un petit peu, là, qu'est-ce qu'on entend là, par le crash de 1929?
Ben, c'est l'événement qui est arrivé à fin octobre 1929, qui c'est important de le dire, qui suivait des très belles années. Hein. Ils appelaient ça les Roaring Twenties, là, les années 20, les années folles en français. C'est l'époque de Charleston, tout. C'était des belles périodes de prospérité économique. Il y avait des nouvelles technologies qui apparaissaient. Hein. Il y avait entre autres l'automobile, apparaissait l'électricité. Les appareils électroménagers commençaient un petit peu à pointer du nez. Fait que les gens étaient très optimistes. Les gens investissaient beaucoup à la bourse parce qu'ils pensaient que ces sociétés-là d'automobiles, d'électricité, d'appareils électroménagers allaient faire des fortunes. Donc, ils étaient prêts à payer cher pour les actions. Puis, on va sans doute en parler plus tard avec des autres questions. Il y avait tout un système bancaire qui favorisait la spéculation. Fait que c'est comme ça qu'on est arrivé finalement. Ah, puis il y a aussi un esprit. On avait un gouvernement américain qui croyait beaucoup à la non-intervention de l'État, qui était vraiment au libre marché. Donc, il n'y avait pas de régulation financière, il n'y avait pas de régulation des banques, il n'y avait pas de commission des valeurs mobilières, la Security Exchange Commission, qui réglemente les marchés boursiers, ça n'existait pas. Il n'y avait rien, là, parce qu'on croyait vraiment que l'intervention de l'État devait être au minimum. T'sais. Donc, c'était tout un contexte d'optimisme sans aucune réglementation qui allait permettre le crash, qui permettait aboutir à un crash en 1929.
Excellent. Et là, vous en avez un peu parlé, là, mais les conditions économiques là, des États-Unis avant ce crash-là, ça ressemblait à quoi?
C'était les années de prospérité. C'était
C'est
les
ça.
belles, belles années, les années 20, c'était les années folles. En France, on disait années folles. T'sais, puis, je ne sais pas si tu vois des films des fois de l'époque, les Charleston, tout ça, c'était
Exactement, ouais.
optimiste, un peu comme
Tout
les années
allait bien.
60, tout allait bien. Puis il y avait, okay, puis il y avait un phénomène de spéculation. Les gens investissaient beaucoup à la bourse parce que, comme je le disais précédemment, les gens pensaient que les nouvelles sociétés, les nouvelles technologies allaient faire des millions de dollars.
Ils pensaient que c'était le moyen d'atteindre le rêve américain,
Ouais,
là,
l'American Dream,
ouais.
il y avait, ça aussi, ça entraînait une surproduction. Parce que les nouvelles technologies, il y avait des nouveaux produits, mais il y avait aussi des nouvelles méthodes de production qui permettaient de produire beaucoup plus. Okay? Donc, il y avait une grosse production. Autant industriel, dans les usines, les nouvelles technologies pour augmenter la productivité dans les usines. Le management aussi, c'est une toute une nouvelle théorie du management. Le Fordisme, tout ça, là, qui était là. Puis aussi en agriculture, c'est la période où les gens engrais commençaient à être utilisés assez couramment. Puis tout fait que la production agricole augmentait beaucoup. Fait qu'il y avait une surproduction parce que les revenus des consommateurs augmentaient pas aussi vite. Donc, on produit de plus en plus, puis les revenus des gens augmentent pas. Ou pas, mais ils augmentaient, mais pas aussi vite que la production.
On commence à avoir un problème.
Donc, on a un problème de surproduction des entreprises. Le prix des matières agricoles commence à baisser avant même le crash.
Okay.
Ça, c'était un signe annonciateur un peu. Le prix des matières agricoles baissait. Okay. Les fermiers avaient de plus en plus de difficultés. Ils commençaient à avoir des difficultés. Déjà, le secteur agricole s'en était ressenti avant le crash.
Okay. Okay. À quel moment précis, selon vous, on a compris là, que la situation boursière a tourné réellement en catastrophe?
Bon, on le disait tantôt au début, hein, on l'a vu le jeudi, puis là, ça a été...
il appelait ça le jeudi noir, je pense, jeudi noir, ouais, ouais. Si je me trompe.
Je me souviens bien, c'est le 24, moi.
Ouais. C'est
le jeudi noir. Puis là, on a vu que la bourse baissait. Les deux, trois premiers jours, les gens se sont dit « Ah, c'est peut-être l'occasion d'acheter plus. » Quand ça baisse, il y a tout le monde qui dit « Ben, l'eau, ça va remonter, c'est le temps d'acheter ton aubaine. » Ça baisse, OK?
Le monde parle encore de ça, il y en a encore qui disent
quand ça baisse souvent, ça, les gens disent « C'est le temps d'acheter, les prix ont baissé. » c'est le lundi et suivant qu'on a senti compte quand ça a tombé vraiment une deuxième fois, en peu de temps, ça a tombé vraiment.
Selon vous, là, les principales causes économiques qui ont mené au crash, ça serait quoi?
Moi, il y en a quatre. Spéculation,
ouais.
Okay, comme on le disait. La surproduction,
mm-hmm.
Okay. Les inégalités de revenus,
okay.
Qui faisaient en sorte que les consommateurs avaient des revenus qui montaient pas aussi vite que la surproduction.
Ouais, comme okay. On a parlé.
Comme partout. Ouais. Production qui monte plus vite que la consommation.
Là, ouais.
Puis il y avait le manque de régulation financière.
Okay.
C'est les quatre critères. Puis on va voir tantôt quand on va parler des moyens pour s'en sortir. C'est là-dessus qu'on a attaqué ces quatre points-là.
Oui, exact. Donc là, vous venez de me parler de spéculation boursière. Mm-hmm. C'est quoi le rôle que la spéculation a joué dans l'effondrement des marchés?
C'est ça. C'est que les gens achetaient. Les gens étaient très optimistes.
Okay.
Un peu comme avec l'intelligence artificielle en ce moment. Mm-hmm. Hein? C'est les acteurs des sept magnifiques qu'on appelle.
Ouais.
Apple, Google, mm-hmm. Facebook, tout là. C'est elles qui vont monter le marché boursier depuis un an ou deux. Hein, les milliers d'autres compagnies n'ont pas tant augmenté. C'est les sept sociétés informatiques et puis Microsoft n'est plus en vue.
Exact.
Okay. Les gens pensent que ça va révolutionner le monde. On a eu la même chose avec la bulle Internet en 99-2000. Il y a eu un crash boursier, mais beaucoup plus petit, beaucoup moins important.
On peut quand même voir
un lien. Bah ouais, un lien. Il y a eu 1929 et l'éclatement de la bulle Internet. En 2000.
Okay.
Puis là, il y a peut-être une bulle financière en ce moment avec l'intelligence artificielle. Il y a des théories qui se posent.
Okay.
Il y a des bons arguments des deux côtés. Puis, OK. Fait que là, c'est ça. C'est-à-dire, il y avait la surproduction, la spéculation boursière, puis à crédit,
mm-hmm.
Okay, qui est tout dangereux. Inégalité de revenus, on en a parlé aussi. Hein, les gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter la production. Le manque de régulation financière. C'est ça. Puis là, c'est là ce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu quelques mauvais résultats financiers qui ont sorti.
Okay.
Quelques sociétés qui étaient les chouchous des investisseurs qui finalement avaient des résultats qui n'étaient pas si bons que ça.
Okay.
Donc là, ça crée une crainte. Là. C'est un peu comme peut-être Nvidia en ce moment qui sait qu'il fallait plus pour l'intelligence artificielle.
Ouais.
Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle qui sort, ça tombe de 15%. C'est...
Ouais, je suis quand même ça. Puis...
Ouais. Quand il y a une bonne nouvelle, c'est le contraire. Ouais. Pouf, ça monte de 15%. c'est la compagnie vaut plus que 5 milliards. C'est la plus grosse capitalisation boursière maintenant. Fait que c'est, tu vois, c'était semblable à 129.
Tu sais. Mm-hmm.
Les arguments, tu peux prendre un peu de temps là-dessus, les arguments de ceux qui disent que c'est pas semblable en ce moment, puis c'est pas fou ce qu'ils disent. Ils comparent par exemple à la bulle Internet ou à 1929. En 1999-2000, c'était des compagnies qui n'existaient même pas, ou encore des compagnies qui avaient encore 0$ de revenus.
OK.
Tu faisais mettre tu mettais .com à la fin de ton nom, puis tes actions triplaient.
Ah ouais, OK.
Puis le cas le plus célèbre, c'est pet.com.
Ah ouais, j'ai jamais entendu parler.
Tu fais des recherches dans Google sur pet.com. C'est des gens qui pensaient partir une boutique pour animaux domestiques en ligne.
OK.
Puis ça n'existait pas quand ça en ligne à l'époque. Faut-tu dans l'époque, ça n'existait pas. C'était les premiers à y penser, là. Avec Amazon, tu sais. Puis eux, ils disent on va vendre de la bouffe pour chiens, chats, puis des jouets pour chiens, pour chats en ligne. On va faire ça de pet.com. Puis ils vendent des actions en bourse. Là, il n'y avait même pas encore de site Internet, il n'y avait même pas encore de magasin, il n'y avait rien. Puis les actions montaient, puis les gens disaient c'est une bonne idée. C'est.
Mm-hmm.
Actuellement, les sept magnifiques,
mm-hmm.
c'est quand même des compagnies qui font des profits.
Ouais.
C'est quand même des compagnies bien établies. OK, c'est pas pareil. C'est ouais, pas Pet.com qui ne même pas, rien parce qu'il y avait une Pet.com au bout du nom.
C'est plus n'importe qui peut se lancer comme ça.
Non,
puis...
Il y en a quelques-unes, mais actuellement, ils ont quand même des plans d'affaires plus sérieux. Ouais. Ils ont quand même déjà des employés, ils ont quand même déjà un chiffre d'affaires. La plupart font quand même des profits, donc c'est quand même un bon signe. Là, c'est. Mm-hmm. Alors qu'en 99-2000, c'était complètement bidon. Là, c'est compliqué, ils ne savaient même pas. Mm-hmm. C'est en 29 qu'il y avait des sociétés semblables aussi.
On peut quand même faire un lien.
Ouais.
Si je vous parle là, des politiques bancaires et monétaires de l'époque, en quoi ils ont aggravé la situation?
Il y avait pas question dans la politique monétaire expansionniste à l'époque comme en ce moment. Comme on a vu avec la pandémie. Hein. Mm-hmm. La pandémie, on a une politique qu'on a appelée quantitative easing.
Okay.
Assouplissement monétaire, en français, assouplissement monétaire. C'est, on a vraiment imprimé de l'argent, on a baissé nos intérêts. On a déposé de l'argent des comptes de banque pour qu'ils puissent passer plus d'argent aux consommateurs, mm-hmm. que nourrir la bulle immobilière en passant.
Ouais.
C'est peut-être ça qui va péter avant la bulle de l'intelligence artificielle. À mon avis, c'est plus mm-hmm. la bulle immobilière. Mais, okay. En 1929, on n'y croyait pas à ces politiques-là.
Okay.
On ne croyait pas que la Banque centrale. Mais en fait, la Banque centrale, la Fed, était pas. Elle a été créée en 1907 à cause d'une autre crise boursière.
Mm-hmm. Okay.
Elle était quand même encore jeune, elle avait 22 ans, elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Au Canada, il n'y avait même pas de Banque du Canada.
Okay.
La Banque du Canada a été créée en 32, à la suite du crash. C'est aux États-Unis, elle datait de 1907, qu'il y avait une crise financière aux États-Unis en 1907. Mais c'était pas, il n'y avait pas autant de pouvoir qu'en ce moment. Ils n'ont pas mené une politique aussi expansionniste que la Banque du Canada, que la Fed a fait par exemple en 2020 ou en 2008.
Ouais,
qui ont empêché le crash financier de 2008 ou la bulle ou la pandémie d'aboutir à une crise économique comme on a vu en 1929.
Ouais.
Politique budgétaire, gouvernement. On n'appliquait pas encore les théories de M. Keynes.
Okay.
Le keynésianisme, c'est encore une théorie marginale. M. Keynes passait par du Luberlu.
Okay.
Un gars qui proposait que le gouvernement augmente son déficit quand ça va mal, mm-hmm. c'était considéré comme un non-sens.
Okay.
Parce qu'on disait que le gouvernement devait se comporter comme un bon père de famille. T'sais. Un bon père de famille dépense moins quand ça va mal.
OK, c'est la première fois que j'entendais celui-là. Okay. Mais,
fait qu'on disait que le gouvernement, quand ça va mal, il faut qu'il dépense moins.
OK.
Mais si le gouvernement qui dépense moins, quand ça va mal, ben, il aggrave la crise.
Ouais.
OK, le Keynes est arrivé, il dit non, le gouvernement, quand ça va mal, c'est le seul qui est capable de la contre-courant. C'est le seul qui est capable de dire, moi, il faut que je dépense plus mm-hmm. pour compenser le fait que les autres dépensent moins.
OK. Okay?
Pour relancer l'économie. C'est le seul qui est capable d'emprunter des milliards pour dépenser quand ses revenus baissent. Parce que ses revenus baissent quand ça va mal.
Ouais. Hein?
Il y a moins de monde qui travaille, donc moins de monde qui paye des impôts. Si ça paye le jeudi, ils ne travaillent plus, ils n'ont plus de paye.
Exact.
Puis les gens dépensent moins, donc ils payent moins de TPS, moins de TVQ. Puis ça n'existait pas à l'époque, mais ils payent quand même de taxes, quand même moins de taxes.
Ouais.
Bon. Fait que c'est revenu baisse. Fait que là, les gens avant 15 disaient non, il faut que le gouvernement ses dépenses parce que c'est revenu baisse, il ne faut pas que le gouvernement ait un déficit, c'est mauvais signe, il faut qu'il gère ses finances comme un bon père de famille.
Mm-hmm.
15, non. C'est... Au contraire, il faut qu'il se comporte en mauvais père de famille. C'est le gouvernement. Il faut qu'il dépense plus que ça va avancer.
Ouais.
On n'appliquait pas encore ces théories-là. Fait que M. Hoover, qui disait que bon, il faut que le budget du gouvernement soit équilibré, l'économie, quand on démarre en 29, il y a un crash boursier, lui, il coupe les dépenses.
Mm-hmm.
Il ne fallait pas que le déficit augmente. Puis comme les revenus du gouvernement avaient moins de revenus, pour ne pas avoir des déficits, il fait qu'il coupe ses dépenses. Donc, ça accélère la crise encore plus. T'sais.
Effectivement, c'est sûr que ça n'a pas aidé.
Puis là, ça a pris le nouveau président Roosevelt avec son New Deal. Le New Deal, dans le fond, c'est la première application dans l'histoire des théories de M. Keynes.
Mm-hmm.
Puis pour ça, quand tu vas aux États-Unis en ce moment, je ne sais pas si tu vas être aux États-Unis en vacances.
Ouais, je vais quand même assez régulièrement.
Partout où tu te promènes, tu vois les autoroutes, tu vois les hôpitaux, tu vois les prisons, tu vois les écoles, ils s'appellent tout FDR.
C'est ouais.
Franklin Delano Roosevelt. La plupart ont été construits pendant les années 30. C'était le New Deal, c'était les applications de la théorie keynésienne.
Mm-hmm.
Ça va mal, il faut que le gouvernement dépasse, donc on construit les écoles, on construit les autoroutes, on construit les barrages, on construit les prisons,
mm-hmm.
on construit les hôpitaux. OK. Pendant que ça va mal, pour relancer, donner des jobs, relancer la demande. Puis donc, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui s'appellent Franklin et Eleanor
Roosevelt.
C'est lui le président, c'est lui qui a appliqué le New Deal, donc en fait, ça porte souvent son nom. Okay. C'est considéré comme un des grands, grands, grands présidents de l'histoire, des deux, trois grands avec Abraham Lincoln.
Ouais. Bon, selon vous, là, pour ce qui a été de la réaction initiale là, du gouvernement américain, face à cette crise-là, ça a eu de l'air de quoi? Là?
Ben, ça a eu, ils ont été plus en avant dans le libéralisme traditionnel, l'économie classique, là. Diminution du rôle d'État, pas de... À court terme, là, c'est... Ils ont demandé à la Fed, ils n'ont pas demandé à la Fed d'intervenir massivement, ils n'ont pas eu de politique budgétaire expansionniste, ils n'ont pas accru les dépenses ou le déficit. Ça a pris 3-4 ans.
OK.
Ça a pris le départ de Hoover, l'arrivée de Roosevelt. C'est plus vers 1932-1933 qu'on a vraiment commencé à appliquer le New Deal, ce qu'on appelle le New Deal.
Oh ouais.
Mais comme je disais tantôt, le New Deal, c'est à la fois c'est le keynésianisme. Donc le New Deal, c'est... ça a pris Roosevelt. Ça a pris... Là, ils ont mis en place une politique budgétaire expansionniste, des projets de construction de barrages électriques, d'autoroutes. Ils ont mis en place des constructions de prisons, d'hôpitaux. Ils ont mis en place la Security Exchange Commission, la commission, qui est en français on dirait la commission des valeurs mobilières ou l'autorité des marchés financiers, c'est qui allait réglementer les marchés boursiers, qui allait mettre des pourcentages minimum de marge chez les actions en bourse, c'est qui allait réglementer le comportement des courtiers, des banques. On a mis en place on a demandé à la Fed d'intervenir pour sauver les banques qui avaient des difficultés financières, okay, faire des prêts aux banques qui étaient en difficulté financière. C'est effectivement, on a vraiment on a fait une nouvelle loi sur les banques. C'est là on a vraiment mis en place un système de régulation financière, de régulation des marchés financiers, une politique budgétaire expansionniste keynésienne, une politique monétaire expansionniste. On a mis finalement en place les outils dont on se sert depuis à chaque récession.
On avance là, un peu dans l'interview. Là. Je vais y aller pour une dernière question là, pour vous. Là. Quel message principal là, vous aimeriez donner là, aux jeunes générations là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de cet événement-là?
Depuis que vous êtes né, c'est toujours des périodes. Même la pandémie, on s'en est bien sorti à cause des politiques canadiennes. On a évité la crise. Hein.
Exactement.
Vous ne savez pas c'est quoi un taux de chômage de 15% ou 20%. Vous ne savez pas c'est quoi une économie qui va mal. Vous êtes né dans une période où il n'y a pas eu de vraie récession.
Okay.
La dernière vraie récession, c'était au début des années 80. C'est. Donc, ça fait 45 ans. C'est peut-être que le mec au parents n'était pas né ou il était tout petit, s'en souvient même pas.
S'en souvient pas.
C'est vos grands-parents, s'en souviennent un peu. Fait que, fais attention qu'il y a des périodes, des fois, qui sont moins faciles que d'autres.
T'sais.
OK. Puis là, on voit que là, le taux de chômage, qui n'était pas un problème, il y a 10-15 ans.
Non.
Alors, on descendait à Montréal, sur le bord de la 15, partout, il y a des toutes les usines, il y a des panneaux en
tout le monde recherchait. Là,
ouais, tout le monde recherchait partout. Là, c'est bizarre, cette année, là, on n'en voit pas. C'était zéro.
On avait des jobs, ouais.
Zéro. Vous, là, jusqu'à maintenant, c'était facile. Là, ouais. Mais là, les derniers chiffres, c'est les chômages, c'est 18-24 ans, c'est 15%.
Mm-hmm.
Ça commence, là, à être un peu différencié. Ouais. Quand on parle aux étudiants, depuis 2-3 ans, tout le monde a des jobs temps partiel dans la classe. Tout le monde. Pourquoi tu sais qu'on va en avoir qu'on va dire en temps partiel?
Ouais, là, il y en a.
On commence, que ça va voir, ça commence à. C'est, peut-être qu'il y a des temps un peu plus difficiles qui s'en viennent. C'est, puis, pas oublier ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas l'empêcher de dormir.
Il ne faut pas vivre dans peur.
Il ne faut pas vivre dans peur non plus, mais savoir que ça peut arriver. C'est,
mm-hmm.
c'est qu'il y a des cycles économiques. Ouais. On l'a vu. Ça fait des milliers d'années qu'il y a des périodes de prospérité, des périodes de récession. C'est. Puis, chaque période de prospérité est suivie d'une récession. Puis, chaque récession est suivie d'une période de prospérité.
C'est ça,
là, ça fait longtemps qu'il y a eu de récession. C'est.
Et que ça va venir.
Ça va venir forcément un jour. C'est. Là, on évite parce qu'on a plutôt les politiques keynésiennes.
Mm-hmm.
Mais là, probablement qu'il va y avoir un gouvernement, à un moment donné, qui va être moins keynésien que les autres. Qui va moins. Ou peut-être que les anti-keynésiens ont un petit peu raison. Peut-être que les gouvernements sont trop endettés puis ils vont faire attention avant d'avoir une politique très, très keynésienne à cause du niveau d'endettement qui est déjà haut. Mais ça, peut-être qu'on ne sait pas que c'est.
OK, donc je vais conclure ça. Là. Je pense que selon là, les réponses là, qu'ils viennent de nous donner, là, on peut voir que le crash, là, ça a eu un impact économique, mais aussi psychologique. Puis en tirer des belles leçons.
Ouais.
Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Ça fait plaisir.
Et, c'est vraiment très apprécié.
Ça fait plaisir.